Audiolib présente Le vieux qui lisait des romans d'amour. De Luis Sepúlveda.
Lu par Féodor Atkin.
Au moment même où, à Oviedo, les jurés qui allaient décerner à ce livre le prix Tigre Juan étaient en train de le lire, à des milliers de kilomètres de distance et d'ignominie, une bande d'assassins, armés et payés par deux plus grands criminels, de ceux qui ont tailleur et manucure et qui disent agir au nom du progrès, mettaient fin à la vie de l'homme qui fut l'un des plus ardents défenseurs de l'Amazonie et l'une des figures les plus illustres et les plus conséquentes du mouvement écologique universel. Tu ne liras pas ce roman, Chico Mendes, ami très cher, qui parlait peu et agissait beaucoup. Mais ce prix Tigre est aussi le tien, comme il est celui de tous les hommes qui continueront sur le chemin que tu as tracé, notre chemin collectif pour défendre ce monde, notre monde, qui est unique. Luis Sepúlveda. À mon lointain ami Miguel Tsenke, syndic chouard de Chumbi dans le haut Nangaritsa et grand défenseur de l'Amazonie. C'est lui qui, une nuit, par ses récits débordants de magie, m'a révélé certains détails de son monde vert inconnu, que j'ai utilisé plus tard en d'autres confins du monde équatorial pour construire cette histoire. Chapitre 1. Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait, très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Le vent tiède et poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Les quelques habitants d'El Idilio, auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs, attendaient sur le quai leur tour de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste, le docteur Rubicondolo Achamin, qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal ?» questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie, mais ils se heurtaient à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel, bats les pattes. Je sais bien que ça te fait mal. Mais à qui la faute, hein? À moi? Non. Au gouvernement. Enfonce-toi bien ça dans le crâne. C'est la faute au gouvernement si tu as les dents pourries et si tu as mal. La faute au gouvernement. » Les malheureux n'avaient plus qu'à se résigner en fermant les yeux ou en dodelinant de la tête. Le docteur Loachamin haïssait le gouvernement, n'importe quel gouvernement, tous les gouvernements. Fils illégitime d'un émigrant ibérique, il tenait de lui une répulsion profonde pour tout ce qui s'apparentait à l'autorité, mais les raisons exactes de sa haine s'étaient perdues au hasard de ses frasques de jeunesse et ses diatribes anarchisantes n'étaient plus qu'une sorte de verrue morale qui le rendait sympathique. Il vociférait contre les gouvernements successifs de la même manière que contre les gringos qui venaient parfois des installations pétrolières du Coca, étrangers impudiques qui photographiaient sans autorisation les bouches ouvertes de ses patients. À quelques pas de là, l'équipage du Sucre chargeait des régimes de bananes vertes et des sacs de café. Sur un bout du quai s'amoncelaient les caisses de bière, d'aguardiente frontera, de sel et les bonbonnes de gaz débarquées au lever du jour. Le Sucre devait appareiller dès que le dentiste aurait terminé de réparer les mâchoires pour remonter les eaux du Nangaritsa, déboucher dans le Zamora et, après 4 jours de lente navigation, rejoindre le port fluvial d'El Dorado.